Oui, il lui ressemble de plus par l'esprit d'épargne et par l'industrie. Il n'accorde à la nature que la satisfaction des désirs nécessaires. Il s'interdit toute autre dépense et maîtrise tous les autres désirs comme insensés. Cela est vrai. C'est un homme sordide, qui fait argent de tout, qui thésaurise. Un de ces talents dont le vulgaire fait grand cas. N'est-ce pas là le portrait fidèle du caractère analogue au gouvernement oligarchique? Oui, selon moi, car de part et d'autre, on préfère la richesse à tout. Je suppose aussi que cet homme n'a guère songé à s'instruire. Il n'y a pas d'apparence. Autrement, il n'aurait pas pris un guide aveugle. Prends bien garde encore à ceci. Ne dirons-nous pas que le défaut d'éducation a fait naître en lui des désirs de la nature des frelons, les uns qui sont comme des mendiants, les autres comme des malfaiteurs, que contient violemment l'autre passion qui le domine? Fort bien. Sais-tu en quelle occasion se montrera la partie malfaisante de ces désirs? En quelle occasion? Lorsqu'il sera chargé de quelque tutelle, ou de quelque autre commission, où il aura toute licence de mal faire. Oui, tu as raison. N'est-il pas clair, par là, que dans les autres circonstances où il obtient l'estime par d'honorables apparences, c'est en se faisant à lui-même une sage violence qu'il comprime les mauvais désirs qui sont en lui, non pas par le sentiment du devoir, ni par l'effet d'une tranquille réflexion, mais par nécessité et par peur, et parce qu'il tremble de compromettre sa fortune. Cela est certain. Mais lorsqu'il sera question de dépenser le bien d'autrui, c'est alors, mon cher ami, que dans la plupart de ces âmes, tu découvriras ces désirs qui tiennent du naturel des frelons. J'en suis très persuadé. Un homme de ce caractère ne sera donc pas exempt de sédition au-dedans de lui-même. Il y aura deux hommes en lui avec des désirs contraires, dont les meilleurs, pour l'ordinaire, l'emporteront sur les plus mauvais. À la bonne heure. Aussi aura-t-il, je pense, de meilleures apparences que bien d'autres, mais la vraie vertu d'une âme, d'accord avec elle-même et où règne l'unité, sera bien loin de lui. Je le crois. Faut-il, en matière privée et entre concitoyens, figurer dans quelque concours ou toute autre poursuite honorable? Cet homme ménager se montrera très faible jouteur. Comme il ne se soucie pas de dépenser de l'argent pour se faire honneur, ni pour ces sortes de combats, et comme il craint d'éveiller en lui-même les passions prodigues, et d'en faire ses auxiliaires, mais aussi des rivales dangereuses de sa passion dominante, il se présente dans la lice sur un pied oligarchique, avec une petite partie de ses ressources. Il a presque toujours le dessous, mais il s'enrichit. Oui, c'est cela. Hésiterons-nous encore à placer pour la ressemblance l'homme avare et ménager à côté du gouvernement oligarchique? Non. C'est maintenant, je crois, le tour de la démocratie. Il faut en examiner l'origine et les mœurs, et observer ensuite la même chose dans l'homme démocratique, afin de les comparer ensemble et de les juger. Oui, poursuivre notre marche ordinaire. Eh bien, voici à peu près comment l'insatiable désir de ce bien suprême que tous ont devant les yeux, c'est-à-dire la plus grande richesse possible, fait passer un gouvernement de l'oligarchie à la démocratie. Comment cela? Les chefs, ne devant leur autorité qu'au grand bien qu'ils possèdent, se gardent de faire des lois pour réprimer le libertinage des jeunes gens et les empêcher de se ruiner en dépenses excessives, car ils ont dessein d'acheter leurs biens, de se les approprier par voie usuraire et d'accroître par ce moyen leur propre richesse et leur crédit. Rien de mieux, oui. Or, il est bien évident déjà que, dans un État, les citoyens ne peuvent estimer les richesses et acquérir en même temps la tempérance convenable, mais que c'est une nécessité qu'ils sacrifient une de ces deux choses à l'autre. Cela est de la dernière évidence, Socrate. Ainsi, dans les oligarchies, les chefs, par leur négligence et les facilités qu'ils accordent au libertinage, réduisent quelquefois à l'indigence des hommes bien nés. Certainement. Et voilà, ce me semble, établis dans l'État, des gens pourvus d'aiguillons et bien armés, les uns accablés de dettes, les autres notés d'infamie, d'autres, tout cela ensemble, en état d'hostilité et de conspiration contre ceux qui se sont enrichis des débris de leur fortune et contre le reste des citoyens, imbus enfin de l'esprit de révolution. Tout à fait. Cependant, ces usuriers avides, tout attachés à leur affaire et sans paraître voir ceux qu'ils ont ruinés, à mesure que d'autres se présentent, leur font de larges blessures au moyen de leur or, et tout en multipliant les revenus de leur patrimoine, travaillent à multiplier dans l'État l'engeance du frelon et du mendiant. Il n'est que trop vrai, Socrate. Et le fléau a beau s'étendre, ils ne veulent recourir pour l'arrêter ni à l'expédient dont il a été question, en empêchant les particuliers de disposer de leurs biens à leur fantaisie, ni à cet autre expédient de faire une loi qui détruise tous ces abus. Quelle loi, Socrate ? Une loi qui vienne après celle contre les dissipateurs et qui obligerait bien les citoyens à être honnêtes. Car si les transactions privées de ce genre avaient lieu aux risques et périls des prêteurs, le scandale de ces grandes fortunes usurairement amassées diminuerait dans l'État, et il s'y formerait bien moins de tous ces maux dont nous avons parlé. J'en conviens. C'est par une conduite pareille que ceux qui gouvernent réduisent les gouvernés à cette triste situation. Ils se corrompent, eux et leurs enfants. Ceux-ci, gâtés par le luxe et l'inexpérience des fatigues du corps et de l'âme, deviennent indolents et trop faibles pour résister, soit au plaisir, soit à la douleur. Cela est vrai. Eux-mêmes, uniquement occupés à s'enrichir, ils négligent tout le reste et ne se mettent pas plus en peine de la vertu que les pauvres. Sans contredit. Or, en de telles dispositions, lorsque les gouvernants et les gouvernés se trouvent ensemble en voyage ou dans quelque autre rencontre, dans une théorie, à l'armée, sur mer ou sur terre, et qu'ils s'observent mutuellement dans les occasions périlleuses, les riches n'ont certes nul sujet de mépriser les pauvres. Au contraire, souvent, un pauvre maigre et hâlé, posté dans la mêlée à côté d'un riche élevé à l'ombre et surchargé d'embonpoints, en le voyant tout hors d'haleine et embarrassé de sa personne, ne penses-tu pas qu'il se dit à lui-même que ces gens-là ne doivent leur richesse qu'à la lâcheté des pauvres, et quand ils seront entre eux, ne se diront-ils pas les uns les autres? En vérité, nos hommes d'importance, c'est bien peu de choses. Ah, je suis bien sûr qu'ils font de la sorte. Et comme un corps infirme n'a besoin, pour tomber à bas, que du plus léger accident, et que souvent même il se dérange sans aucune cause extérieure, ainsi un État, dans une situation analogue, tombe dans une crise dangereuse et se déchire lui-même à la moindre occasion. Soit que les riches et les pauvres appellent à leur secours, ceux-ci, les citoyens d'un État démocratique, ceux-là, les chefs d'un État oligarchique. Quelquefois même, sans que les étrangers s'en mêlent, la discorde n'éclate pas moins. Ah oui, vraiment? Eh bien, à mon avis, la démocratie arrive lorsque les pauvres, ayant remporté la victoire sur les riches, massacrent les uns, chassent les autres et partagent également avec ceux qui restent l'administration des affaires et les charges publiques, lesquelles, dans ce gouvernement, sont données par le sort pour la plupart. C'est ainsi en effet que s'établit la démocratie, soit par la voie des armes, soit par la retraite des riches, effrayés de leurs dangers. Voyons donc quelles seront les mœurs, quel sera le caractère de ce gouvernement. Tout à l'heure, nous rencontrerons un homme d'un caractère analogue à celui-là, que nous pourrons appeler l'homme démocratique. Certainement. D'abord, tout le monde est libre dans cet état. On y respire la liberté et l'affranchissement de tout gêne.